On est de retour et on va discuter avec le directeur du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Yves Desjardins. Cette idée d'assouplir, si on veut, cette réglementation ou du moins cette norme de surveillance dans les établissements fait beaucoup couler d'encre. Alors, voyons un peu qu'est-ce qu'il en est pour le Regroupement québécois des résidences pour aînés. Monsieur Desjardins, bonjour. Alors, comment vous voyez ça, justement, cette idée du gouvernement par rapport aux recommandations du rapport de Cyril Delage suite à l'incendie de la résidence à l'Île-Verte?
Bien, écoutez, l'incendie de l'Île-Verte, c'est tragique. C'était un événement majeur. Il y a eu l'incendie de l'Île-Verte. Les recommandations du commissaire Delage qui voulait, avec raison, ajuster les moyens de protection. Maintenant, force est de constater, depuis cet événement-là, que si on resserre trop, deux phénomènes se produisent devant les occupants et les résidences fermes, puis on en dénote 249. Depuis l'incendie de l'Île-Verte, il y a 249 résidences qui ont fermé au Québec. Deuxièmement, il y a un mouvement de décertification. En fait, c'est que l'immeuble qui est considéré comme une résidence pour amis redevient un immeuble appartement et là disparaît complètement du radar du gouvernement, puisque ne pas se soumettre aux règles de certification. Alors, il fallait composer avec cette réalité-là, mais augmenter le niveau de sécurité. Alors, ce que le ministre propose, de ce que je comprends, puisqu'on n'a pas vu le règlement final, c'est enlever le mur à mur là, des ratios, finalement, de surveillants dans toutes les résidences, peu importe leur réalité, et d'y aller par du cas par cas, en tenant compte du bâtiment, du type de construction, du service d'incendie, du temps de réponse, de la capacité financière aussi. Alors, tout ça font des éléments là, que le Centre intégré de santé et services sociaux au régional peut, lui, augmenter le seuil de surveillance en fonction de la réalité de cette résidence-là. Il y a d'autres éléments que Cyril Delage avait recommandé. C'est très important, c'est l'installation du GLAR. La protection mécanique des bâtiments. Tout le monde se rendait à l'évidence que la meilleure forme de protection était d'exiger les giclées. Le règlement a été adopté en décembre dernier. Toutes les résidences devront être giclées pour décembre 2020. Alors, il y a ça aussi qu'il fallait tenir compte. Ce n'est pas juste une question de coût. C'est de dire, nous avons mis en place des moyens de protection. En révision des systèmes d'alarme, augmentation des systèmes de détection, formation du personnel en sécurité incendie en mesure d'urgence, également l'installation de giclades. Ce sont des mesures, là, bien qu'elles soient coûteuses, assurent une protection accrue aux aînés qui habitent en résidence pour aînés.
En tout cas, ça, c'est en cours, c'est en route, ça a été établi. Il y a sur l'aspect de la surveillance où le gouvernement semble vouloir assouplir un peu sa position.
Et c'est là que la réalité rattrape, comme je disais, là, le risque de fermeture, le risque de transformation des résidences pour aînés en immeubles locatifs réguliers. Et ça fait qu'ils ne sont plus soumis à aucune règle. Alors, c'est là que ça devient. Il faut mettre ça dans la balance puis assurer un certain équilibre. Les gens veulent demeurer en résidence pour aînés, veulent demeurer dans leur coin de pays. Mais on veut augmenter la sécurité. Alors, c'est ça qu'il fallait composer, je pense. Nous, on trouve que c'est une application intelligente.
Mais là, on parle de remplacer les préposés aux bénéficiaires par des bénévoles formés ou des résidents formés.
La formation de préposés n'inclut pas une formation en sécurité incendie. D'autre part, que la personne soit rémunérée ou non, je pense que si on forme quelqu'un sur les mesures d'urgence et quoi faire en cas d'incendie, ça peut être tout aussi efficace. Je pense qu'on a qu'à voir là, dans plusieurs endroits du bénévolat qui est assuré. Je vous dis que les gens font un excellent travail. Ce n'est pas la paye, comme on dit, qui vient changer l'efficacité des gens. Maintenant, cette mesure-là permettait, une fois de plus, que de plus petites résidences en région demeurent ouvertes. Donc, prenons par exemple, là, imaginons une résidence de 15 unités, où il y a 15 locataires, puis on installe un surveillant 24 heures par jour, 7 jours par semaine, on parle d'une dépense annuelle. S'il est payé au salaire minimum, on parle d'une dépense annuelle de 85 000. Divisez ça par 15 logements et ensuite par 12 mois, ça fait une augmentation de loyer de 500 $ par mois. C'est facile de répondre à la question, est-ce que les aînés sont en mesure de l'assumer? Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut augmenter différemment le niveau de sécurité? Comment? Alors, peut-être en assurant la surveillance par un bénévole, en formant bien ce bénévole-là, en mettant des protections mécaniques au bâtiment, voyez-vous? Alors, c'est toute une série de mesures qui vient compenser pour éviter la fermeture de la résidence.
Bon, on parle d'un bénévole qui serait sur place ou à d'autres moments pas sur place. Comment on peut faire une bonne surveillance si on n'est pas là?
Encore une fois, il y a des proximités, il y a des gens qui sont voisins de la résidence, qui œuvrent dans la résidence, qui viennent faire le ménage ou qui sont déjà beaucoup impliqués dans l'habitation. C'est sûr que c'est pas quelqu'un là qui va être situé à 5 km. Là. Il faut que ce soit à proximité. Et c'est là qu'est la beauté, je pense, de pouvoir considérer chacune des régions, les petites résidences, et faire du cas par cas pour vraiment appliquer des mesures, très, très ciblées pour cette résidence. C'est un dosage là qui, à mon sens, apparaît beaucoup plus intelligent qu'une formule mur à mur, peu importe la situation.
OK. Donc, ce que vous dites, c'est que d'aller de l'avant avec des professionnels comme ça, rémunérés, ça met en péril donc les résidences. Et dans les régions, j'imagine, est-ce que c'est plus difficile dans des régions comme la nôtre que dans les grands centres?
Bien, nous, on a relevé là, au cours des 30 derniers mois 249 fermetures au Québec. Mais dans la région de la Gaspésie, on parle de 15 résidences qui ont dû fermer. Et quand on observe les motifs qui ont été invoqués, on parle de difficultés financières, on parle de changement de vocation à un immeuble locatif, on parle d'exigences réglementaires trop lourdes, on revient toujours au dénominateur commun qui est, dans le fond, les dépenses qui sont beaucoup trop élevées pour qu'ils soient assumées par les... Vous savez, les revenus d'une résidence proviennent des loyers. Si on augmente les loyers, les aînés sont plus capables de l'assumer. Fait que là, on se retrouve vraiment là, coincé.
Alors, quel est le juste milieu, selon vous?
Ben, c'est ce qui est proposé. Qu'on fasse du cas par cas plutôt que d'y aller bêtement là, à toutes les résidences avec un seuil de surveillance. Qu'on tienne compte de la configuration du bâtiment, comme je disais tantôt, du lieu, hein, géographique, là, où elle est située la résidence. Parfois, il peut y avoir un service d'incendie où le temps de réponse est plus efficace parce qu'on a une permanence, comme par exemple à Rimouski, à Matane. Mais on a des services à temps partiel qui sont, je ne mets pas en doute leur efficacité, mais ils ne sont pas à la caserne. Vous connaissez ça, les pompiers sont à temps partiel, donc payés à l'acte. Le temps de réponse peut être plus long, on l'a vu à l'île verte. Fait que c'est ça qu'il faut prendre en considération. Quand tous les résidents demeurent, par exemple, au rez-de-chaussée, on peut évacuer beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce qu'il faut vraiment un surveillant pour 16 ou 15 résidents? Je ne suis pas certain, moi, que ça fait le travail. Par contre, si on a des gigants pour empêcher la propagation, là, on est efficace.
Alors, merci bien pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui, M. Yves Desjardins, directeur du Regroupement québécois des résidences pour aînés.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.